La guerre des hommes est devenue la guerre des dieux. Le chaos qui règne entre Grecs et Troyens s'étend désormais à l'Olympe. Tenant chacun un bout, les dieux tirent sur la corde du terrible conflit. C'est un nœud impossible à briser. Arès a été blessé par Athéna, tout comme Aphrodite. Zeus ne peut tolérer pareille situation. Dieux et déesses lui ont désobéi. À partir de maintenant, déclare-t-il, quiconque secourra l'un des deux camps sera foudroyé et précipité dans le plus profond des gouffres de l'enfer. Au fond du noir Tartare, au-dessous de la demeure d'Hadès, là où se morfondent celles et ceux qui ont osé défier l'autorité de Zeus. Zeus fixe plus particulièrement son épouse, Héra, et sa fille, Athéna, qui revient à l'instant du champ de bataille. Elles n'ont d'autre choix que d'accepter, elles aussi, la sentence du dieu des dieux. Mais voilà qu'Héra laisse éclater sa rage. Interdire aux dieux d'intervenir, c'est favoriser les Troyens. Car sans le secours des dieux et privés de leur meilleur guerrier, Achille, les Grecs ne peuvent espérer l'emporter. Arès, galvanisé par la colère de sa mère Héra, demande à Zeus, sur un ton de reproche, combien de temps encore il tolérera que sa fille Athéna manipule les hommes pour s'en prendre aux immortels. Il accuse Zeus de protéger sa fille préférée, au prétexte qu'il l'enfanta lui-même. Zeus rabroue vertement Arès. Il lui ordonne de quitter l'Olympe et de se rendre auprès d'Asclépios, le dieu guérisseur, pour y soigner ses blessures. Il menace le dieu de la guerre d'un séjour aux enfers s'il ose encore s'exprimer. Puis, le dieu des dieux monte sur son char, saisit son fouet, frappe ses chevaux au pied d'airain et s'élance entre ciel et terre. Nul ne sait où il se rend, ni ce qu'il trame. Mais, à voir l'expression de son visage, il est clair qu'il n'a nullement l'intention de se cantonner au rang de simple spectateur. Arès a rejoint Asclépios, qui vit non loin de Troie. Le dieu guérisseur est fils d'Apollon. Deux de ses fils ont pris part à la guerre contre les Grecs et sont déjà tombés sous les coups du redoutable Achille. En envoyant Arès auprès d'Asclépios, Zeus se doutait que le dieu de la guerre, à peine soigné, rejoindrait subrepticement le camp des Troyens. Il ne s'est pas trompé. Arès entend se venger d'Athéna et de son père. Quand bien même son destin serait d'être frappé par la foudre de Zeus, d'être couché avec les morts. Arès se place derrière Hector et lui souffle sa flamme. Hector, à la tête de ses cavaliers, reprend l'offensive. Et rapidement, les Grecs battent en retraite. Même le terrible Diomède semble épuisé par l'assaut qu'il a si courageusement mené. Et jusqu'à la nuit tombée, les Troyens acculent les soldats d'Agamemnon au rivage, tout près de leur navire. Un vent triste souffle sur le campement grec. Ni vainqueur, ni vaincu. Le vieux Nestor observe la construction d'un mur entre la plaine de Troie et le rivage. Il encourage ses soldats. Ce mur doit être achevé avant l'aube. Décidément, cette guerre, plus encore que celle qu'il a pu connaître par le passé, est imprévisible. Une fois de plus, la fortune a changé de camp. Alors que la veille, les Troyens pliaient sous les coups du jeune Diomède, les voilà maintenant qui dominent la bataille. Leurs attaques sont de plus en plus pressantes. Nestor a bien fait d'ordonner la construction de cette muraille. Car si l'ennemi atteint les bateaux, rien ne l'empêchera d'y mettre le feu. Et plus un seul Grec ne reverra sa patrie. Un homme vient de franchir le seuil du palais de Priam. Il marche lentement. Son grand âge l'oblige à s'appuyer sur une canne. Il s'appelle Anténor. C'est le beau-frère du roi. Après s'être incliné devant le souverain, il jette un rapide coup d'œil sur ceux qui sont présents. Paris, Priam, Hector, Hécube. Et dans un coin, Cassandre. Le vieil homme vient une fois encore demander que l'on rende Hélène à son époux et que l'on verse aux Grecs tous les tributs qu'il réclame. Il ne fait que porter la parole du peuple. Ce peuple de Troie, qui depuis 10 ans résiste aux Grecs, est épuisé. Des veuves et des orphelins. Voilà le royaume sur lequel Priam règne désormais. Tant de glorieux héros ont rejoint la terre des morts. Mais cette fois-ci, c'est Hector qui s'y oppose. Nul besoin de rendre Hélène à Ménélas. Les Troyens ne sont-ils pas en train de l'emporter ? Les Grecs ont le dos à la mer. Leurs navires sont à portée de flèche. La victoire n'est pas loin. Anténor fait remarquer que cela fait 10 ans que la victoire n'est pas loin. Elle penche au gré de l'humeur des dieux. Tantôt du côté grec, tantôt du côté troyen. Le terrain gagné à l'aube est perdu au crépuscule. Paris, offusqué, réitère son refus de rendre Hélène. Anténor évoque à nouveau l'intérêt du peuple. Hector réclame davantage de cavaliers pour harceler les Grecs. Priam a l'air perdu. Tandis que les hommes jouent à la guerre, deux femmes s'éclipsent discrètement. La reine Hécube et sa fille Cassandre. Cassandre possède l'art de prédire l'avenir. Mais parce qu'elle a refusé les avances d'Apollon, le dieu de la lumière l'a condamnée à n'être jamais crue par personne. Cassandre l'a vue. Si Paris ne rend pas Hélène à Ménélas, alors Troie brûlera. Et sa mère le sait, mieux que personne. Hécube ne peut pas avoir oublié la sinistre prophétie que sa propre fille lui révéla jadis. Peu de temps avant de mettre au monde Paris, elle avait vu sortir de son ventre une torche qui embrasait la ville entière. Cassandre affirma aussitôt que l'enfant à naître serait la cause de la ruine de Troie. Le mettre à mort s'imposait si l'on voulait préserver Troie. Nul ne l'avait cru. Hécube et Priam, effarés, accusèrent Cassandre de ne pas aimer son nouveau frère. Ils mirent sur le compte de la folie ce soudain accès de cruauté. Hécube, toutefois, vécut dans le trouble l'adolescence du beau Paris. Lorsqu'il fut en âge de porter les armes, elle trouva tous les prétextes pour l'éloigner de Troie, par précaution. Bien sûr, elle ne croyait pas aux prophéties de Cassandre, mais elle avait bien vu cette torche enflammer sa cité. Au fond d'elle-même, Hécube sait que Cassandre n'a pas tout à fait tort. Le choix de Paris est cause de bien des malheurs pour les Troyens. Un vent terrible se met soudain à souffler le long du mur construit par les Grecs. La mer et le ciel, jusque-là si calmes, sont déchaînés. Il faut bouger les tentes, déplacer le campement loin des flots tumultueux. Nestor rejoint Agamemnon et Ulysse. Ils ont compris. Dans leur hâte à bâtir ce mur pour contrer les assauts troyens, les Grecs ont oublié de sacrifier aux dieux qui érigent les murailles. Poséidon. Lui, le bâtisseur de l'invincible muraille de Troie, ne peut supporter que de simples mortels construisent un mur, sans même honorer son nom. Poséidon a été offensé. Les trois rois blêmissent. Ils savent combien le dieu de la mer et des océans est ombrageux. Il punit tous ceux qui oublient de sacrifier à son culte. Dans le camp des Grecs, c'est la débâcle. Contre la colère du dieu au trident, il n'est de salut possible. Les plus farouches soldats tombent à terre, implorent la clémence du dieu marin.